Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Les habitants de Terre Sainte ont vécu des événements sombres et dramatiques. Les évêques de la coordination Terre Sainte expriment leur inquiétude pour les populations de la région. Ils viennent de publier un communiqué à l'issue d'une visite en Jordanie, en Israël et en Palestine. Plus de précisions dès le début de ce magazine. À quelques jours de la manifestation en France des opposants au projet de loi concernant le mariage pour tous, la mobilisation ne faiblit pas. Le mariage n'est pas un produit de consommation, rappelle Mgr Vincenzo Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille. Vous l'entendrez dans quelques instants. N'oublions pas Haïti. Il y a bientôt 3 ans, la terre tremblait sur l'île. Aujourd'hui encore, il reste beaucoup à faire en matière de reconstruction et les besoins humanitaires sont immenses. L'Église est toujours mobilisée. Témoignage dans cette édition de Michel Roy, secrétaire général de Caritas Internationalis. Bienvenue dans ce magazine. Les évêques de la coordination Terre Sainte sont inquiets face à la guerre civile en Syrie et au conflit à Gaza et dans le sud d'Israël. La délégation d'évêques d'Europe et d'Amérique du Nord, en visite ces jours-ci en Terre Sainte, vient d'achever son pèlerinage. À l'issue de ce déplacement de 3 jours dans le cadre d'une visite annuelle de solidarité, un communiqué final a été publié ce jeudi. Les évêques entendent intensifier leurs efforts pour une paix juste et disent vouloir convaincre leur gouvernement de reconnaître les causes profondes de la souffrance sur cette terre. Olivier Bonnel.
Notre foi a été enrichie par la force et le courage des personnes que nous avons rencontrées. Les évêques de la coordination Terre Sainte qui se sont rendus en Jordanie, Israël et Palestine ne cachent pas leurs émotions et leurs préoccupations face au conflit qui ébranle la région. Les habitants ont vécu des événements sombres et dramatiques, souligne-t-il. Le conflit à Gaza et dans le sud d'Israël, la guerre civile en Syrie qui a provoqué un très grand nombre de réfugiés arrivant en masse dans d'autres pays, mettant une pression énorme sur leurs ressources et augmentant une polarisation au sein d'Israël et de la Palestine. Une situation qui a suscité une profonde inquiétude pour tous dans cette région, pour les Israéliens, les Palestiniens, les Juifs, les musulmans et en particulier pour la population chrétienne dont le nombre décroît. De ce pèlerinage sur cette terre meurtrie, les évêques retiendront aussi les témoignages de ceux qui prennent soin des plus vulnérables, comme les réfugiés en provenance de Syrie et d'Irak qui fuient la terreur et la violence. Des personnes qui luttent aussi contre un visage d'oppression et d'insécurité en Terre Sainte, et ils saluent le courage de ces religieuses impliquées dans la prise en charge de travailleurs migrants, de personnes victimes de trafic et de prisonniers. Aussi, c'est un appel vibrant qu'ils lancent à toutes les personnes de bonne volonté partout dans le monde pour soutenir les travaux entrepris dans cette région afin de construire un avenir meilleur et de citer en exemple 2 organismes, le Catholic Relief Services dans la bande de Gaza et le Caritas Refugee Program en Jordanie. Enfin, face aux luttes juridiques pour protéger les terres et les institutions religieuses locales et à l'empiètement du mur relaté par les habitants de la vallée de Crémizan à l'ouest de Bethléem, les évêques européens et nord-américains s'engagent à continuer à exhorter les gouvernements de leurs pays respectifs à agir pour empêcher cette injustice.
Les évêques de la coordination Terre Sainte réitèrent par ailleurs l'appel du pape lancé en ce début d'année dans son discours au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège. Benoît XVI avait invité Israéliens et Palestiniens à s'engager pour une coexistence pacifique dans le cadre de 2 États souverains où le respect de la justice et les aspirations légitimes des 2 peuples seraient préservés et garantis. Dans ce communiqué final, les évêques invitent également l'ensemble des fidèles à se rendre en Terre Sainte, à aller à la rencontre des communautés chrétiennes locales. C'est également l'appel lancé par Mgr Elias Chakour, archevêque catholique de Ritmelkit en Terre Sainte. On l'écoute.
J'ai affirmé l'importance de ces lieux saints, l'importance de les protéger, comme font si bien nos frères franciscains et nos frères latins. Mais j'ose attirer l'attention sur une autre réalité, que les pierres saintes, quoique saintes qu'elles soient, elles ne sont pas plus saintes que les pierres vivantes, les chrétiens de ce pays. Vous venez en pèlerinage, c'est excellent, que Dieu vous bénisse. Visitez les antiquités, les lieux saints, mais donnez une demi-journée, à l'une ou à l'autre des communautés chrétiennes qui aimeraient beaucoup vous contacter, vous connaître, partager avec vous un repas. Ils ne vous demanderont pas de l'argent, ils vous demanderont l'amitié et la solidarité.
Monseigneur Elias Chakour, interrogé par notre consœur du programme anglais, Véronica Skersbrick. Cette visite des évêques de la coordination Terre Sainte a été quelque peu perturbée par les mauvaises conditions climatiques. Les tempêtes de neige, le vent et la pluie se sont en effet abattus sur la région, rendant notamment encore plus difficiles les conditions de vie dans les camps de réfugiés. Le directeur de la Caritas Jordanie évoque des situations intolérables, en particulier dans le désert jordanien, où vivent 50 000 réfugiés ayant fui la guerre civile syrienne. Les évêques italiens ont débuté leur visite ad limina. Quelques 250 évêques seront ainsi reçus au Vatican durant le premier trimestre. Ils rencontreront le pape, qui est aussi primat d'Italie. Le premier groupe reçu ce jeudi matin faisait partie du diocèse de Rome, mené par le cardinal Agostino Vallini, vicaire général du pape pour le diocèse, dont le pape est l'évêque. Un lien souligné par Mgr Lorenzo Baldisseri, secrétaire de la Congrégation pour les évêques, pour qui cette visite est très significative. Car le pape est l'évêque de Rome et il existe donc un lien très étroit avec les évêques d'Italie. Le pape recevra ensuite les évêques d'Abruzzes et Molise, puis toutes les autres régions. Les évêques d'Ombrie seront les derniers à rencontrer Benoît XVI le 22 avril prochain. Benoît XVI a nommé ce jeudi le père Brendan Leahy, nouvel évêque de Limerick en Irlande. Il succède à Mgr Donald Murray, qui avait démissionné fin 2009 avec en toile de fond le dossier d'abus sexuels sur mineurs dans son diocèse. Le nouvel évêque est prêtre du diocèse de Dublin, membre du mouvement des Focolari et professeur de théologie ayant effectué une partie de ses études à Rome. Bernard de Cotigny.
La nomination du père Leahy, âgé de 52 ans, intervient 3 ans après la démission de Mgr Murray, l'un des principaux accusés du rapport Murphy sur le scandale des abus sexuels élaboré par le ministère de la Justice irlandais et publié en novembre 2009. Selon les conclusions de la commission d'enquête, plusieurs évêques successifs avaient ainsi couvert pendant une trentaine d'années des prêtres pédophiles dans le but de protéger l'Église et d'éviter en tout cas le scandale. Après la publication de ce rapport, Benoît XVI a rencontré en 2010 l'ensemble de l'épiscopat irlandais à Rome et adressé une lettre pastorale aux catholiques irlandais. Le pape y dénonçait notamment les graves erreurs de jugement de certains évêques, se disant scandalisé par le crime atroce de la pédophilie. Il y annonçait également son intention de lancer une visite apostolique dans certains diocèses et séminaires du pays. Cette démarche s'est conclue en juin 2011. En novembre de la même année, un nonce apostolique en Irlande, l'américain Mgr Charles Bourne, a été nommé. Progressivement, Benoît XVI a accepté la démission de plusieurs évêques impliqués dans la couverture de crimes pédophiles et a nommé leur successeur. Le précédent en date est le père William Quinn, qui a succédé à Mgr John Magee à la tête du diocèse de Clone.
Le service de presse du cabinet du prince de Monaco a publié ce jeudi un communiqué concernant la visite du prince Albert II et de son épouse Charlène au Vatican. Ils seront en effet reçus par Benoît XVI le 12 janvier prochain. Cette audience, peut-on lire, revêt une importance particulière pour le couple princier, la princesse Charlène rencontrant à cette occasion le souverain pontife pour la première fois. Cette visite, précise également le service de presse, s'inscrit dans une longue tradition de relations étroites et confiantes entre la principauté de Monaco et le Saint-Siège. Cette visite avait été annoncée officiellement ce mercredi par le bureau de presse du Saint-Siège. Tarbourg a commencé. C'est ce dimanche 13 janvier à Paris que défileront les opposants au projet de loi du mariage pour tous. La mobilisation, notamment via Internet et les réseaux sociaux, a été massive. Plusieurs centaines de milliers de personnes sont attendues. La Manif pour tous, qui se veut apolitique et non confessionnelle, comptera de nombreux catholiques dans ses rangs, décidés à l'instar des autres participants à défendre le mariage et la famille menacés par une loi dont ils contestent le bien fondé et les conséquences. Certains évêques ont d'ores et déjà annoncé leur intention de défiler aux côtés des manifestants. D'autres ont apporté leur soutien. D'autres encore préconisent la prudence, désireux d'éviter toute récupération politique. Le Vatican apporte son soutien à l'épiscopat français, saluant son unité et ses prises de position courageuses dans ce débat anthropologique et sociétal. Manuela Effigi a interrogé Monseigneur Vincenzo Paglia, présidente du Conseil pontifical pour la famille.
Le mariage pour tous, c'est une affirmation que nous devons bien la clarifier. Le mariage, c'est entre une femme et un homme pour avoir des enfants. Ça, c'est le mariage qui est étroitement lié à la famille. Le mariage, ce n'est pas un produit de consommation qu'on peut prendre au supermarché de la ville. Le mariage, comme le disait déjà plus de mille, il y a 2000 ans Cicéron et encore Aristote, le mariage est le commencement de la cité où s'apprendre la citoyenneté. L'Église ne défend pas une chose qui est propre seulement à elle. Le mariage et la famille est un patrimoine de l'humanité qui la soutient à travers les siècles et partout dans le monde. L'amour, c'est une chose universelle, Dieu est amour. L'Église exhorte tout le monde à s'aimer, mais le mariage et la famille, c'est une chose bien précise que nous devons défendre pour soutenir bien nos sociétés.
Mais est-ce que vous ne craignez pas que le fossé se creuse un peu plus de façon irrémédiable entre l'Église catholique, les positions qu'elle défend en matière morale et éthique et les opinions publiques?
Et le grand rabbin, qu'il est catholique ou non? Il est un croyant juif et il dit la même chose que l'Église catholique. Il y a aussi des laïcs qui pensent la même chose. Le fossé ici, ce n'est pas entre l'Église catholique et l'opinion publique. C'est un peu plus profond. C'est la division entre une mentalité qui veut élever au sommet l'ego, le moi, pour détruire le nous, la société. L'individualisme, c'est le poison qui va détruire nos sociétés. Le premier obstacle de l'absolutisme, de l'individualisme, c'est la famille. C'est pour ça qu'on commence comme ça. L'individualisme a une seule dérive terrible, la destruction de la socialité, de la solidarité, c'est-à-dire de l'amour. Parce qu'à la fin, si chacun aime seulement soi-même, les autres deviennent sûrement des ennemis.
L'Église de France est particulièrement mobilisée contre le mariage pour tous. De Rome, vous qui êtes président du Conseil pontifical pour la famille, comment percevez-vous cette mobilisation des fidèles catholiques?
J'ai souligné avec beaucoup de reconnaissance cette attitude de l'Église française parce qu'elle a voulu prier pour ce problème. Il s'est engagé pour soulever un débat public sur un problème qui est vraiment crucial. Il a trouvé des alliés dans des autres confessions. Et à mon avis, c'est une perspective très intéressante. J'aimerais que le débat continue parce que l'ignorance, c'est la mère de toutes les dérives et de toutes les bêtises. Alors, on doit élargir le débat à propos de la peine de mort, à propos de la paix, à propos des droits de tout, aussi des droits des hommes, pourquoi pas? Au droit de la femme, au droit de la famille comme telle, et pas seulement des individus. Alors, dans ce sens, j'ai admiré beaucoup l'unité de l'épiscopat de France. C'est un bel signe qui montre que l'amour et l'intelligence peuvent provoquer des miracles.
Donc vous pensez que la France puisse servir d'exemple?
Je suis sûr, parce que entre le silence ou la vérité conçue comme un bateau, il y a l'espace énorme du débat. Et dans ce sens, l'Église de France a ouvert une manière pour se confronter avec tous à propos d'un sujet qui regarde exactement tous.
Monseigneur Vincenzo Paglia, président du Conseil pontifical pour la famille, que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. C'est un peuple éprouvé par le séisme que nous avons rencontré, séisme dont les traces sont encore loin d'être effacées. Ce sont les mots de Mgr Marc Stinger, évêque de Troyes et président de Pax Christi France, qui a passé les premiers jours de l'année sur le sol haïtien. 3 ans après le terrible tremblement de terre, la reconstruction peine et les besoins humanitaires sont encore immenses. L'Église souhaite que l'on n'oublie pas Haïti. C'est le cas de Michel Roy, secrétaire général de Caritas International. Il revient sur les actions de l'ONG en terre haïtienne.
En Haïti même, les gens survivent. Donc ils vivent au jour le jour et je crois qu'ils ont largement oublié ce qui s'est passé il y a 3 ans, même si physiquement, il y a encore pas mal d'immeubles qui sont par terre. Donc le palais national n'a pas été reconstruit. Donc il y a des traces visibles du tremblement de terre. Mais à la fin de l'année passée, l'ouragan Sandy est passé par là et a détruit à nouveau dans le sud du pays des récoltes, a tué des personnes. Donc malheureusement, Haïti est un pays qui n'arrive pas à relever la tête. Peut-être que la principale catastrophe en Haïti, c'est que l'administration, le gouvernement n'arrive pas à remettre le pays sur ses pieds. C'est dû à une culture, c'est dû à une histoire longue, mais c'est un pays qui est en situation de survie, qu'il y ait catastrophe naturelle ou pas. La principale priorité aujourd'hui serait d'aider les gouvernants de ce pays, qui je crois ont tous beaucoup de bonne volonté, à réorganiser l'ensemble du système administratif, du système social. Et ils n'en ont pas les ressources financières. La communauté internationale a beaucoup investi après le tremblement de terre avec des aides, y compris administratives, policières, etc. Le sentiment est que tout cet argent investi n'a pas, a servi certes, mais n'a pas permis véritablement aux gouvernants haïtiens de reprendre la main sur les destinées de leur pays.
Est-ce que la Caritas, qui est structurée au niveau international, mais aussi très bien structurée au niveau local, peut justement venir en aide au gouvernement, évidemment en parallèle à l'aide qu'elle apporte aux populations?
Ça, c'est très difficile, mais vous avez raison de dire. Caritas, c'est d'abord ce qui se vit en termes de solidarité localement, au niveau d'un village, au niveau d'une paroisse, et puis organisé au niveau diocésain et au niveau national, en Haïti comme ailleurs. Et le réseau Caritas vient en appui aux initiatives qui sont prises localement. Dans le champ du service public, l'Église, en Haïti comme ailleurs, mais particulièrement en Haïti, quand l'État fait défaut, quand il ne fonctionne pas, supplée. Par exemple, actuellement, le grand hôpital Saint-François de Sales de Port-au-Prince est en train d'être reconstruit avec l'appui de la Caritas américaine. Au niveau local, les dispensaires sont souvent tenus par l'Église, les petites écoles dans les villages aussi. Donc l'Église supplée. Et je dirais que l'Église, son rôle là, bien sûr, c'est d'aider les populations, mais c'est aussi de montrer le chemin. Il faudrait que les autorités se retroussent les manches et que la communauté internationale les appuie vraiment pour remettre en place ou mettre en place des systèmes sociaux, de santé, d'éducation qui servent vraiment les populations.
Aujourd'hui, comment est-ce que la Caritas Internationalis vient en aide en ce qui concerne la reconstruction, évidemment des biens matériels, mais aussi une aide peut-être psychologique, spirituelle?
Aujourd'hui, il y a encore 9 Caritas du Nord principalement, qui ont gardé des bureaux en Haïti pour appuyer les Caritas diocésaines et la Caritas nationale à mettre leur programme en œuvre. On reconstruit, on répare des écoles. Et puis, on aide les gens à reprendre, autant que faire se peut, le chemin d'une vie normale, donc la formation de paysans, la fourniture de semences, la fourniture d'équipements, l'appui, en particulier à travers du microcrédit à des initiatives de groupes de femmes. Et puis, comme vous l'avez dit, sur un plan spirituel ou sur un plan de conseil, les personnes qui ont vécu le séisme et le drame du séisme sont encore, pour un certain nombre d'entre elles, traumatisées et ont besoin d'être accompagnées. Donc il y a des services de type conseil aux personnes très traumatisées. Caritas est l'Église, est un service de l'Église et effectivement le lien avec la dimension spirituelle qui est très vive et très présente dans la culture haïtienne est quelque chose de fort, assez naturel.
Des propos recueillis par Marie Duhamel. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie.